Erev Tov, Mashlomchem, t'as compris? Oh, t'aurais dû. Bon, Erev Tov, c'est bonsoir, et Mashlomchem, il y a le mot shalom qui veut dire paix, donc ma c'est quoi? Et Shlomchem, c'est votre paix. Comment allez-vous? Bien. Souvent, quand je viens dans la région, non seulement je ne viens pas seul, mais j'amène un peu de neige. Mais le problème, c'est que quand je viens en Suisse, je n'ai jamais de pneus neige. Aïe, 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 mais on verra. Il y a des trains, on m'a dit. Il y a de bons serviteurs loyaux qui vont me déplacer. Alors, pour ceux qui me connaissent, ça ne fait que 40 et quelques années que j'habite en Israël. Je suis arrivé en 1975, enfin 75 pour les rares Français d'ici. Et je suis guide depuis 1980. Et on m'a demandé gentiment quel âge j'avais, donc j'ai pas honte de dire mon âge, j'ai des cheveux blancs. Je n'ai que 68 ans et demi, et en Israël, la retraite, c'est à 67 ans. Donc, je suis retraité. La paye ne suit pas, donc je travaille un petit peu. Et puis, je savais pas si j'allais continuer encore une tournée l'année dernière, cette année. Puis, il y a souvent Marcel Niederhaus qui m'appelle 3-4 mois avant ma tournée. Loïc, quand est-ce que tu viens? J'ai besoin de réserver des dates. Alors, si je réserve à l'un, il faut aussi que je vienne pour d'autres. Alors, je suis là. Et le Seigneur, il est bon. Et voilà. Et on a besoin de parler d'Israël. C'est vrai que ce ne sont pas toutes les églises qui ouvrent leurs portes pour qu'on parle d'Israël, qu'on intercède pour Jérusalem. Et ce soir, ce qu'on va faire, c'est de parler de cette ville, des revendications, surtout de l'islam. Il y a une montée, une puissance de l'islam depuis quelques décennies. Et il mène presque le monde de par le bout du nez. On verra. Donc, Jérusalem, un peu dans la prophétie en relation avec les événements actuels. J'ai mis des textes bibliques et le PowerPoint, je vous le laisserai. Donc, comme ça, vous pourrez relire les textes. Ne rajoutez pas des trucs dessus pour dire ce que je n'ai pas dit. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Vous connaissez ces paroles de Jésus? Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sur ses ailes. Et si vous allez à Jérusalem, dans une église sur le mont des Oliviers, ça s'appelle Dominus Flevit, le Seigneur pleura, sur l'autel, on voit justement une mosaïque avec une poule et ses petits poussins. C'est un peu l'image de Jésus qui a voulu rassembler ses enfants à lui, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison sera laissée déserte. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce qu'ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et comment dit-on ça en hébreu, chère madame? Vous le savez, ça, hein? Baruch haba b'shem Adonai. Et un jour, le peuple juif, en tant que peuple, et Israël, crieront, peut-être acculés par les nations, eh bien, ils demanderont au Seigneur de venir. Et vous savez que quelques années plus tard, après ces paroles de Jésus, le peuple juif a osé lutter contre l'Empire romain, non une fois, mais deux fois. Et ils pensaient que les cieux allaient se déchirer, que Dieu allait descendre et les sauver. Le temple a été détruit, ça a été la captivité, un massacre. Et c'est avec l'argent du temple et de Jérusalem que le Colisée a été construit. Et vous avez aussi l'arche de Titus, hein, qui représente le chandelier à sept branches transportées par les soldats romains. Mais il y a aussi autre chose. Ici, dans Zacharie, au chapitre 12, en ce jour-là, je m'appliquerai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Vous êtes toujours neutre? Qui a dit non? Vous n'êtes plus neutre? Alors, vous ferez partie du lot, avec la France et les autres, peut-être. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit ou un souffle, c'est la même chose, l'esprit, le souffle, rouach de grâce et de supplication. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé comme nous, on l'a percé. Ça vient, c'est en chemin. Y a-t-il des juifs messianiques ici à la Chaux-de-Fonds? Y a-t-il des juifs encore? Il y en a encore, mais tant mieux. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec eux un peu du Seigneur? C'est pas facile, hein? Moi, si j'étais né dans une famille juive et que pendant 2000 ans, ma famille ou mes ancêtres auraient été massacrés au fil des siècles par les chrétiens, c'est sûr que l'amour chrétien, hein. Donc là, on a peut-être aussi du nettoyage à faire et des pardons à demander pour que l'esprit puisse pénétrer. Mais en Israël, il y a des assemblées. Votre pasteur me demandait comment ça va. Eh bien, elles grandissent, les assemblées. Oh, pas du double du jour au lendemain, mais lentement, il y a de nouvelles assemblées qui se forment. En Amérique, il y a peut-être 100 et quelques mille juifs messianiques. J'étais il y a à peu près un mois en Belgique dans une petite communauté de juifs messianiques, à la Linière, pour ceux qui connaissent. En France, ça n'avance pas beaucoup, mais l'Esprit de Dieu est répandu et se répand sur les juifs et ça continue d'avancer lentement mais sûrement. Et le Seigneur fait souvent les choses dans l'ombre, mais elles avancent. Donc voilà le plan du Seigneur. Un jour, ils vont crier. Et déjà, il a prévu que l'Esprit de Dieu, car parmi nous, nul ne pourrait dire que Jésus est le Fils de Dieu s'il n'a pas reçu une bonne onction du Saint-Esprit. Car sans l'Esprit de Dieu, nul ne peut dire, et ça c'est vrai pour le peuple juif, un jour ils le reconnaîtront. Nous, on peut déblayer le terrain, on peut prier, on peut intercéder, on peut parler, s'il nous laisse parler, mais souvent, ne mettez pas la porte là, ou le pied dans la porte précise, ils s'arrêteront. Donc il y a aussi des différentes façons, peut-être des pardons à demander. C'est quoi ça? Ah oui, c'est une carte, je ne sais plus, c'est du 15e, 16e siècle. Vous avez l'Europe, vous avez l'Asie, vous avez l'Afrique. Bon, peut-être qu'à l'époque, on n'avait pas encore découvert les autres continents, mais au centre, vous avez... Bon, j'ai pris cette photo dans un musée à Jérusalem, et c'est le flash de mon appareil qui est là, mais ça représente Jérusalem, qui est le nombril du monde, le centre du monde. Et on est en plein dedans. On est presque dans le mille actuellement. Pendant des siècles, la ville a été abandonnée et des chrétiens et des musulmans, mais maintenant que les juifs retournent à la maison, il y a une levée de boucliers pour que d'autres récupèrent cette ville. Et voilà ce que ça donnait. En 1835, photo prise, bon là c'est le cédron, le petit chapeau, c'est le tombeau ou le mémorial d'Absalom, est prise quelque part sur le côté du Mont des Oliviers. Il y avait la ville intramuros. Pas une habitation à l'extérieur des murailles. Et la première maison fut construite par un juif en 1860 par la porte de Jaffa, Moïse Montefiori. Et aujourd'hui, c'est une toute petite ville, plus grande que Singapour. Non, pardon, plus grande que la Chaux-de-Fonds. Elle ne fait que 200 km² avec 860 000 habitants. Mais c'est quand même pas mal. Il y a près de 300 000 Arabes, chrétiens, quelques-uns et musulmans à Jérusalem. Et ils ne sont pas prêts de lâcher le morceau non plus. Là, il y a un conflit spirituel et aussi de prendre cette propriété que Dieu a donnée aux Juifs. Et voilà ce que des premières photos qui apparaissent à Jérusalem, les Juifs à Jérusalem devant le mur des Lamentations. Aujourd'hui, on veut l'appeler le mur occidental, mais même ce mur est revendiqué par l'autre communauté. Que ce mur n'appartient pas aux Juifs, il appartient à l'islam. Ouais, et on le saura pourquoi tout à l'heure. Vous le savez certainement pourquoi. Et à la porte de Jaffa, alors à l'intérieur de la porte, vous avez, normalement je peux rajouter ici un autre petit panneau, c'est Omar Ibn al-Khattab. Et c'est apparemment à la porte de Jaffa en 637 que les chrétiens se sont soumis à l'islam. Ils sont rentrés dans la dhimmitude. Vous avez tous lu des livres de Batior, une Suissesse juive, elle en a écrit des livres, il y a encore un nouveau qui est sorti. Et elle parle beaucoup de la dhimmitude et on risque de, si on ne repousse pas ces différents esprits qui veulent noyer l'Europe, eh bien on risque d'être dans la dhimmitude. On ne sera pas massacré. Les gens du livre chrétien et juif peuvent rester ce qu'ils sont, mais en payant un droit, un tribut et d'être citoyens de deuxième catégorie. Mais en attendant, je suis dans la joie, c'est ce que nous a lu tout à l'heure Alain. Nos pieds entrent dans tes portes. Et comment dit-on, priez pour la paix de Jérusalem, chère madame, en hébreu? Non, c'est pas au purée, elle a dit ça. Shalou, shalom, Yerushalayim. Vous connaissez pas le chant, Shalou, shalom, Yerushalayim? Si je chante, on a encore de la neige. Non. Voilà la porte, une des portes de Jérusalem. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion. Ah, c'est vrai ou pas vrai? Bon, c'est marqué. Plus que toutes les demeures de Jacob. Mais de Sion, il est dit, et ça, ça nous concerne certainement. Alors, si je te gêne, déplace, hein, parce que je bouge. Tous y sont nés, et c'est lui, le Très-Haut, qui l'affermit. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'un tel y est né. Donc, quelque part, spirituellement, on est né à Jérusalem. Et certainement, sur le plan spirituel, il nous a donné la vie, une nouvelle vie. Et ça, c'est la fameuse porte de Damas, la plus belle des portes, avec le marché le vendredi. Et si vous aimez qu'on vous marche sur les pieds, allez à la porte de Damas entre 11h et midi et revenez à 1h30, 2h30 quand tout le monde sort des mosquées, surtout le premier vendredi du mois du Ramadan. Quand parfois il y a une marée humaine de 100 000 personnes ou plus ou moins qui viennent, qui ressortent des mosquées et prient pour Jérusalem pendant le mois de Ramadan. Trois fois par an, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Où est-ce que l'Arche d'Alliance a résidé avant de monter à Jérusalem ? Oui, d'accord, merci beaucoup. Et où elle se trouvait cette tente, ce tabernacle ? À Shiloh, ou Silo. Et Dieu a choisi quand même Jérusalem. Et quand on voit dans le passé, dans les premiers livres, le premier livre de la Bible, dans le livre de la Genèse, on a déjà une rencontre. On partage du pain et du vin. On donne la dîme. Melchizedek. Je crois que ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi Jérusalem. Et à Jérusalem, il y a une petite source, le Giron. Et c'est un des noms qu'on retrouve parmi les quatre fleuves du Jardin d'Éden. Alors allez savoir qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem. Et la tradition juive nous dit que c'est de la poussière du mont du Temple que Adam a été créé. Ça, c'est leur tradition, mais pour montrer l'importance qu'ils ont pour cette ville. Donc si on disait « l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, voici je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux ». Et quand il est dit « je t'ai gravé sur mes mains », peut-être qu'on peut penser à ce qui est gravé sur ses mains ou ses poignets. Il n'oublie pas Jérusalem, c'est là qu'il nous a sauvés. Lui, le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Et c'est pas par hasard qu'Abraham avait rencontré Melchizedek. Et au mur occidental qu'on appelle le Kotel. Et une seule fois dans la Bible, le mot Kotel est mentionné, ça veut dire un mur. C'est dans le Cantique des Cantiques. Et des rabbins ont décidé, ils ont interprété qu'il se tient derrière notre mur, que derrière ce mur, il y a toujours la présence de l'Éternel sur le mont Morija. Pas si la présence est plus là-bas qu'ici, mais bon, Dieu a choisi ce lieu et les Juifs prient devant ce mur, non pas parce que le mur est saint, c'est simplement une muraille de soutènement. Alors imaginez ici une muraille tout autour et le temple étant là, au milieu. Donc ce n'est pas un reste du temple, simplement la muraille de soutènement. Mais à force de prier devant ce mur et de répandre leurs plaintes, il est devenu le mur des lamentations. Maintenant, le mur des réjouissances. Vous y allez le deuxième et cinquième jour de la semaine, vous avez les bar mitzvot. Vous allez pour les trois fêtes de pèlerinage, eh bien, vous avez les Kohen, des centaines et des centaines de Kohen qui font la bénédiction recouverte du châle de prière qui bénissent le peuple. Pour les Juifs, c'est devenu comme un lieu saint. Mais pour moi, un mur, c'est un mur, mais ils sont attachés à ce mur. Mais il n'y a pas qu'eux qui sont attachés à ce mur. Une jument a été attachée à ce mur. Et on verra tout à l'heure pour qui, pourquoi. Non seulement il y a les bar mitzvot et autres, mais aussi des cérémonies, j'allais dire militaires, nationales. Là, c'est pour le souvenir de l'Holocauste. Souvent, c'est aussi une cérémonie pour le 68e ou 69e anniversaire d'Israël, et ainsi de suite. Et vous avez souvent le président, le premier ministre, qui font un petit discours devant ce mur. Donc l'importance pour ce mur, pour le peuple juif. Et jour et nuit, vous pouvez venir devant ce mur. Et là, vous avez d'anciennes arches qui datent peut-être de l'époque du deuxième temple, sinon reconstruites par les Romains. Et au bout, il y a un petit tunnel qui longe et qui sort à la troisième station du chemin de croix. Vous avez peut-être emprunté ce tunnel. Et dans ce tunnel, on peut voir une pierre qui fait peut-être d'ici jusqu'à l'autre extrémité, même plus, qui ferait 500 ou 600 tonnes. Et ça fait partie des constructions d'Hérode et ceux qui l'ont suivi. Donc voilà pour... Et ici, vous avez les prières, les intentions de prière. Priez pour la paix de Jérusalem. Peut-être que si vous êtes venu à Jérusalem, vous avez peut-être placé également une prière dans ce mur. Et pourquoi les Juifs prient-ils tourner vers Jérusalem ? À cause ou grâce à qui ? Grâce à Salomon. Quand il a fait la dédicace du temple, vous vous souvenez, il a dit que cette maison ne peut pas te contenir, et si jamais le peuple pêche, car il ne peut pas vivre sans péché, il se connaissait déjà, mais quand ils seront dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes, s'ils se tournent vers le pays que tu leur as donné, vers la ville que tu t'es choisie, vers le lieu que je t'ai construit, fais leur droit et grâce. Et non seulement pour les Juifs, mais pour l'étranger également. Donc vous n'êtes pas obligé de venir devant ce mur pour prier, mais Salomon aussi voulait que même les nations se tournent vers Jérusalem pour la prière. Donc les fameuses pierres du mur occidental. Et ici, les nouvelles fouilles au sud du mont du Temple. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils en chérissent la poussière. Et en Israël, dans chaque juif ou israélien, il y a pour ainsi dire un archéologue qui sommeille ou qui ne sommeille pas. Et on a retrouvé même quelque part ici, vous voyez cette pierre que le guide, ou je ne sais pas qui, montre aux touristes. Eh bien, cette pierre porte une inscription et c'est marqué, c'est l'emplacement des trompettes. C'était la première tout en haut où un prêtre venait, le Shabbat et pendant les fêtes juives, à cet angle, sonner des trompettes pour annoncer au peuple que maintenant, rentre à la maison, c'est le début de la fête du Shabbat et autres. Et cette pierre, bien sûr, était la première par terre sur ce dallage sur lequel certainement Jésus a marché. Donc ces fouilles ont été effectuées ces 10-15 dernières années. Et c'est important pour les Israéliens. La citadelle à la porte de Jaffa, j'ai mis point de suspension de David, les croisés qui l'ont appelé de David, mais une citadelle des rois croisés, presque tout le monde a rajouté quelque chose. Et les Romains n'avaient pas détruit les trois tours d'Hérode le Grand ici, qui protégeait Jérusalem au nord-ouest, pour montrer les fortifications de Jérusalem. Il s'est dit, si je rase tout, on va me dire, oui, mais ce n'était pas une ville fortifiée. Donc il a laissé ces trois tours magnifiques, alors que la forteresse Antonia, le temple et les autres murailles furent littéralement saccagées. Vous voyez un mariage juif, ça c'est une peinture. Et voilà la phrase que l'on prononce pendant un mariage juif. Avez-vous assisté à un mariage juif? Alors tout ceci pour vous dire l'importance du peuple juif pour cette ville. Si je t'oublie Jérusalem, que ma droite m'oublie. C'est quoi la droite? Comment on dit la droite en hébreu? Comment on dit le dernier de la bande? Benjamin. Ça veut dire le fils de ma droite. Que ma droite, et la droite c'est la force. Donc que ma force m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens pas de toi, si je ne mets pas Jérusalem au-dessus de toute autre joie. Il est en train de se marier et il lit cette prière, enfin ce texte biblique, qui mettra Jérusalem au-dessus de toute sa joie. Et c'est grâce à cela que la communauté juive n'a pas oublié Jérusalem au fil des siècles. Ils n'ont pas pu venir y habiter, mais maintenant qu'ils ont la possibilité, ils n'ont pas envie qu'on leur arrache cette ville. C'est toute l'histoire du peuple juif dans cette ville de Jérusalem, c'est le temple. Et ce n'est pas seulement une ville de côté spirituel, comme les chrétiens qui allaient, faisaient leur petit pèlerinage et repartaient tout contents. Pour eux, c'est existentiel, c'est leur ville, c'est leur capitale et l'emplacement que Dieu a choisi. Donc si c'est si important pour le peuple juif, on peut comprendre que d'autres vont dire « Oui, mais attendez, c'est à nous aussi, on veut cette ville. » Et c'est ce qui se passe actuellement. Et comme les nations de culture judéo-chrétienne sont de moins en moins de culture judéo-chrétienne, eh bien, on lâche beaucoup de lest pour faire plaisir au monde arabo-musulman, pour se chauffer ici en Suisse et en France et en Bretagne et ailleurs, pour avoir du pétrole et ainsi de suite. Est-ce qu'on est en train de vendre notre âme et de concéder beaucoup de choses? Que les uns et les autres puissent habiter ensemble, mais maintenant, pour qu'il y ait la paix, il va falloir qu'elle devienne certainement la capitale du califat islamique, qui n'existe plus depuis l'époque d'Atatürk. On en est là aujourd'hui, ce sont leurs revendications. Bon, même si ce sont, vous direz, peut-être des paroles en l'air, des slogans, ça devient plus que des slogans. Et je ne sais pas combien de millions ou de milliards de musulmans sur cette terre, mais beaucoup d'entre eux croient dur comme fer ce que leur racontent leurs leaders. Et leur chair et autres, et les serments qu'ils font contre Israël. Et bien sûr qu'ils ne lisent pas la Bible. D'abord, ils ne peuvent pas la lire. Parce que nous, les chrétiens et les juifs, on a falsifié la parole de Dieu. Donc il n'y a que le Coran pour eux. Et j'ai oublié combien de fois Jérusalem est mentionnée dans le Coran? Non, elle n'est pas mentionnée du tout. Alors que dans la Bible, c'est... Alors, hein? Ce sont que des traditions. Voilà, la journée de Jérusalem... Donc tous ces jeunes qui défilent dans la ville de Jérusalem, bon, bien sûr, ils défilent dans Jérusalem-Ouest. Ils vont pas trop, si parfois ils s'approchent aussi de la porte de Damas, ils font même un soir une sorte de promenade autour des murailles de Jérusalem, mais on sent un peu de tension vis-à-vis de ceux de Jérusalem-Est. Donc c'est l'importance pour le peuple juif, cette ville, cette capitale, la fête des cabanes. Vous avez reconnu au moins le drapeau? Sinon j'en ai un dans mon camion. Donc avec cette dame, on a fait au moins 15 voyages en Israël pendant 15 jours pour la fête des cabanes. Et on participait avec les Juifs pour la marche des nations, avec les Israéliens, les nations et différents groupes. Et les Juifs, vous voyez, God bless you aussi, ce sont les Israéliens qui sont là, et différents peuples qui viennent. Oh, c'est déjà vieux ça. Donc non seulement pour la... fête de Jérusalem, mais la fête des cabanes, les nations montent à Jérusalem et des chrétiens disent « Nous, nous sommes avec vous ». Donc l'ambassade chrétienne, vous recevez peut-être la lettre de nouvelles, certains d'entre vous, d'accord? Ouais, cocorico. Et vous aussi, vous faites cocorico, on voit vos drapeaux sur les maisons partout. Le mont du Temple, voilà la pierre d'achoppement entre les juifs et les musulmans et pour les nations. Mais ça, vous le savez, Al-Quds al-Sharif, la sainte et la neuve, voilà comment ils l'appellent les musulmans, Jérusalem. Et maintenant, on va parler un peu de l'islam, comment ça s'est passé, qu'ils ont récupéré cette ville. À chacun son fardeau. Ben, il suffit qu'il se lève et qu'il parte, et on est tranquille. Il s'est levé, il est parti, et derrière, c'est resté à sa place. Et là, vous avez le Saint-Sépulcre et la mosquée de l'Aqsa qui se cache quelque part derrière. Donc là, une vue du Mont des Oliviers. Si vous êtes venu en Israël, c'est un must, on doit y aller, et on prie pour la paix de Jérusalem. Alors, la sainteté de Jérusalem, pour Mahomet, fait partie de l'héritage juif et chrétien. Bien sûr qu'on le sait tous, il a été influencé par des chrétiens, par les communautés juives qui habitaient aussi dans des oasis. Et d'après un historien arabe, il se serait tourné 16 mois, si je ne me trompe pas, vers Jérusalem en espérant récupérer la communauté juive. Et il y a des tribus juives qui sont converties à l'islam. Je ne sais pas s'ils avaient tellement le choix, ou plutôt que de se faire massacrer ou voir leurs femmes prises et les enfants massacrés, des juifs et des chrétiens se sont convertis à l'islam. Cependant, cette ville n'est pas mentionnée une seule fois dans le livre saint des musulmans et Jérusalem 650 fois. Dans la Bible hébraïque, Jérusalem et Sion 152 fois. Donc on voit dans la Bible l'importance de Jérusalem. Et Sion, c'est la ville de Sion, la ville de Jérusalem, mais par extension, c'est tout le pays et tout le peuple. Réjouis-toi, fille de Sion, ce n'est pas seulement les habitants de Jérusalem, mais c'est le peuple juif. Et un événement important dans l'histoire de l'islam, la conquête de Jérusalem par Omar ibn al-Khattab en 637. Donc les Byzantins ont été vaincus et ils ont finalement signé une sorte de traité comme quoi ils se soumettaient à l'islam. Et ils auraient la vie sauve. Alors dès sa conquête par Omar, Jérusalem rentre dans le Dar al-Islam. Et l'Europe ou la France jusqu'à Poitiers. Tout pays qui appartenait à l'islam doit redevenir terre de l'islam. La Suisse, je ne sais pas. Pas encore. Et pourquoi j'ai dit Poitiers ? 637, non ? 732, non ? Combien ? 732. Hein, ça va être 732. Ils ont été stoppés là-bas, mais pour eux, toute terre qui a appartenu une fois à l'islam doit redevenir terre de l'islam. Et ça, c'est dans la pensée du monde musulman, arabo-musulman. Et les lieux saints chrétiens apparurent comme un défi aux yeux des musulmans. Et c'est peut-être pas par hasard que le dôme du rocher ressemble un petit peu à la forme du Saint-Sépulcre. Donc à l'intérieur, vous avez au Saint-Sépulcre la tombe de Jésus, on tournait avec le rite de la circumambulation, et au dôme du rocher, vous avez un rocher, et il tournait également pour s'élever spirituellement. C'est à peu près le même, concurrencer Jérusalem. Et peut-être qu'il y a eu déjà une petite mosquée érigée par Omar, et il faudra attendre les Omayyades de Damas qui vont se séparer de la Mecque et de Médine, et là ils vont construire justement les mosquées à Jérusalem. Et donc en 691, le calife Abdelmalik ibn Marwan construit le dôme du rocher. Et Jérusalem prit le nom de Beth al-Magdish. Ça vous fait penser à quoi, Beth al-Magdish, Migdash? Eh bien, c'est la maison du temple. Beth al-Migdash en hébreu, c'est ce qu'on appelle nous le temple. Et ils ont pris le nom hébreu, avec le petit accent arabe, dérivé du terme juif désignant Beth Amikdash. Maintenant, ils l'appellent de nouveau nom. Mais au départ, ils l'ont appelé un peu Jérusalem, si vous voulez. Et Walid, son fils, fera construire la mosquée El Aqsa. Alors, l'identification du site avec la mosquée la plus honnête devient totale et définitive. Donc, tout ceci pour vous résumer que dans la sourate 17, et on avait peut-être parlé de ça l'année dernière, vous avez la sourate qui parle du voyage de nuit de Mahomet d'un point sacré jusqu'à un point éloigné, le plus éloigné. D'après certains historiens arabes de l'époque, ça aurait été peut-être une petite mosquée pas loin ou entre la Mecque et Médine. Mais les Omayyades qui se sont séparés de Damas et de Médine et de la Mecque font de Damas une capitale politique et ils leur font un lieu de pèlerinage et il faut contrecarrer les chrétiens de Jérusalem. Donc le dôme du rocher va devenir le troisième lieu saint de l'islam. Et surtout, quand Walid construit l'autre mosquée, El Aqsa, qui veut dire éloigné, eh bien, ils vont associer ce voyage de nuit de Mahomet, hein, du lieu sacré jusqu'au point le plus éloigné, comme étant Jérusalem. Voilà comment, au 7e, 8e siècle, les musulmans récupèrent Jérusalem. Et les circonstances du voyage nocturne, ce qu'il appelle l'Isra, ont été embellies de tout un florilège de légendes et de dont la miraculeuse monture ailée Al-Burak.